France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'info avec le journal de la rédaction. Et vous, Thomas Cluzel, rebonjour.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Une centaine d'entre eux sont entrés dans Paris peu avant l'aube. Les agriculteurs comptent bien faire partager leur colère aujourd'hui encore. Et ce, à la veille de la signature probable de l'accord de libre-échange du Mercosur. À suivre également, une nouvelle équation à choix multiples dans la perspective des municipales à Paris. Avec notre invité, on s'intéressera à la nature exacte du mouvement de protestation en Iran. Est-ce qui le distingue ou pas des révoltes précédentes. Enfin, de nouvelles manifestations sont attendues aujourd'hui à Minneapolis, où un agent américain du service de l'immigration a battu hier une jeune mère de famille de 32 ans. Parce qu'ils entendent maintenir la pression jusqu'au bout, comprenez, jusqu'au vote prévu demain sur l'accord commercial entre l'UE et les pays du Mercosur, les agriculteurs avaient repris la route dès hier soir direction Paris avec la ferme intention de bloquer la capitale, et c'est ainsi qu'en dépit des interdictions préfectorales et faisant fi tout à la fois des intempéries comme des derniers gestes du gouvernement, les convois de la colère sont arrivés à destination ce matin, d'où la réaction courroucée du gouvernement qui, par la voix de sa porte-parole, a qualifié l'action des agriculteurs, je cite, d'inacceptable. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
En réalité, on ne parle là que de quelques dizaines de tracteurs seulement. Pour la plupart, d'ailleurs, toujours bloqués aux portes de la ville, même si certains, c'est vrai, ont réussi à rejoindre les rives de la Seine, notamment au pied de la Tour Eiffel, ou bien encore devant l'Arc de Triomphe, pour ceux qui ont réussi, Catherine, à remonter l'avenue des Champs-Élysées.
Oui, et pendant qu'aux portes de Paris, des arbres ont été coupés et placés en travers de la route, quelques agriculteurs de la coordination rurale se sont rendus à pied jusqu'à l'Assemblée nationale, avec la volonté d'y porter symboliquement leur doléance, notamment leur opposition à ce qu'ils désignent comme un excès de normes. Après avoir été hués par des agriculteurs, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a annoncé une rencontre à partir de 14h avec les représentants syndicaux. Depuis ce matin, les mobilisations de la coordination rurale ont abouti à des tracteurs à la fourrière et quelques gardes à vue à Paris et ailleurs. C'est d'ailleurs pour protester contre celle du président de la coordination rurale d'Occitanie que des agriculteurs ont lancé une action de blocage des accès à la ville de Rodez. Des réponses concrètes, voilà ce que demandent tous les syndicats d'agriculteurs. Une formule générique derrière laquelle chacun met en réalité des choses très différentes selon son modèle agricole. Seul point commun, la dénonciation du traité de libre-échange du Mercosur. Mais les représentants agricoles profitent du moment et de l'attention politique et médiatique pour porter leurs autres revendications. Côté Confédération paysanne, c'est la fin de l'abattage total en cas de dermatose bovine. La FNSEA, elle, évoque franchement une liste de demandes envoyées au Premier ministre, notamment un calendrier pour les mesures déjà promises, comme des aides à la viticulture ou encore les décrets d'application de la loi agricole, toujours pas parus.
Merci Catherine Pétillon. Et je précise qu'en cas de signature donc, du traité, la FNSEA appelle à manifester le 20 janvier à Strasbourg.
Et que dire à présent du désarroi des ostréiculteurs?
Une cinquantaine d'entre eux étaient venus manifester lundi soir près de Montpellier devant le siège social du journal Midi Libre, furieux du traitement médiatique donné à l'interdiction depuis le 30 décembre dernier de la vente d'huîtres et de moules de l'étang de Thau en raison d'un virus dans l'eau responsable de plusieurs cas de toxi-infection alimentaire collective pendant les fêtes. Et c'est ainsi que les protestataires ont notamment mis le feu au portail de l'établissement, ce qui a perturbé la distribution des journaux et conduit depuis la direction de Midi Libre à porter plainte. Les précisions de Roman Salch.
Des pneus et palettes enflammées devant le portail, un épais nuage noir s'en échappe. Sur une vidéo postée sur le site de Midi Libre, on entend les cris de colère des manifestants. Les ostréiculteurs sont restés 4 heures sur place avant l'intervention des gendarmes, selon Midi Libre. Olivier Marino, directeur de la rédaction.
Une cinquantaine de personnes qui étaient avec leur voiture et deux camions fourgons. Les plaques d'immatriculation étaient grimées. Certains étaient masqués ou en partie cagoulés.
Le comité de conchyliculture de Méditerranée dénonce un traitement racoleur des conséquences du virus et un dénigrement de leurs produits. Des témoignages intitulés, je cite, comment un repas de Noël a terrassé toute une famille. Olivier Marino s'en défend, même s'il reconnaît le désarroi des ostréiculteurs face à cette énième contamination lors des fêtes.
On a fait un traitement factuel et contradictoire de la situation en leur donnant la parole. Il y a eu aussi des témoignages des gens qui nous ont contactés en disant voilà, on a mangé des huîtres, on est malade. Est-ce que ce sont les huîtres ou une grippe intestinale? Il y avait quand même sur les huîtres une contamination avérée. Je pense que la partie témoignage a déplu.
Le SNJ, syndicat national des journaliste, dénonce une opération d'intimidation, explique son délégué pour Midi Libre, Guy Trubuil.
Pour nous, c'est une atteinte
inadmissible. Il y avait une volonté d'empêcher le journal d'être distribué le soir même. De mémoire, jamais il y avait eu une action de cette ampleur. Oui, il y a une inquiétude réelle.
La vente d'huîtres est suspendue pour au moins 28 jours. La préfecture a annoncé des mesures de soutien au secteur.
Comme attendu, après une première lecture infructueuse, les députés vont reprendre à partir d'aujourd'hui en commission l'examen du budget de l'État pour 2026.
Avec l'espoir de trouver une issue rapide, sauf qu'on voit mal comment les représentants des deux chambres pourraient s'accorder sur une version commune de ce projet de loi de finances, de sorte que la seule option possible en réalité pour le gouvernement pourrait bien vite devoir se résumer à cette alternative, elle-même compromise, soit le recours inédit aux ordonnances, soit l'utilisation du 49.3 que le Premier ministre s'est toutefois engagé à ne pas dégainer, sauf que ce matin la ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin, a dit ne rien exclure qui puisse donner un budget. En attendant, l'examen en commission à partir d'aujourd'hui devrait donner lieu à de nouveaux débats enflammés avec plus de 2000 amendements déposés. Après un premier faux départ en fin d'année dernière lié à l'absence du MEDEF, les partenaires sociaux s'étaient à nouveau donné rendez-vous hier pour relancer les négociations sur le dispositif actuel de bonus-malus appliqué aux contrats courts, de même que les ruptures conventionnelles. Or, le patronat a aussitôt fait part de son intention d'aller plus loin encore, s'agissant par exemple des conditions d'entrée et des règles d'indemnisation de l'assurance chômage. Difficile dans ces conditions d'imaginer que l'échéance initialement fixée à fin janvier pour conclure cette négociation sera tenue, auquel cas le gouvernement, qui s'est donné pour objectif de trouver 400 millions d'euros d'économies, se réservera le droit de reprendre la main.
Sa candidature à l'hôtel de ville faisait peu de suspense, c'est désormais officiel.
La députée européenne Reconquête, Sarah Knafo, 32 ans, figure montante de l'extrême droite, particulièrement présente dans les médias de la galaxie Bolloré, a décidé de se lancer officiellement dans la course à la mairie de Paris. Nicolas Ballu, bonjour.
Bonjour.
Alors, le dernier sondage paru en décembre dernier lui prêtait 7% des intentions de vote au premier tour, or avec 4 listes au total en mesure de se qualifier au second. La nouvelle égérie conservatrice pourrait se retrouver à jouer les faiseuses de roi, en l'occurrence de reine, en cas d'alliance avec Rachida Dati.
Oui, les performances électorales de Reconquête à Paris sont supérieures à celles réalisées au plan national. C'était notamment le cas lors de la présidentielle de 2022 avec le vote Zemmour. Pour le politologue Jean-Yves Camus, cette candidature n'est donc pas une bonne nouvelle pour Rachida Dati.
Il existe une certaine attractivité de Reconquête dans les arrondissements de l'Ouest parisien, peut-être du centre actuellement tenu par la droite. Et il faut rappeler qu'il y a deux chiffres clés dans ces élections municipales. C'est ce que l'on appelle le seuil de fusion. 5% des suffrages exprimés, vous avez le droit de fusionner avec une autre liste. 10%, vous avez le droit de vous maintenir. Le dommage causé à la liste de Rachida Dati sera sans doute assez considérable.
La candidate soutenue par les Républicains au coude à coude dans les sondages avec le candidat de la gauche non LFI, Emmanuel Grégoire, avait fait savoir que sa liste du deuxième tour serait la même qu'au premier. Mais hier soir, sur TF1, Sarah Knafo, tenante de l'Union des droites, lançait des œillades à Rachida Dati.
Si les Parisiens choisissaient quelqu'un d'autre, je serais tout à fait constructive pour faire gagner les idées qui sont les miennes. Et encore une fois, j'espère qu'ils me choisiront.
Et l'autre candidat à la droite, le candidat Horizon Pierre-Yves Bournazel, se pose officiellement en rempart et demande ce matin à Rachida Dati de, je cite, « récuser cette volonté d'alliance ».
Merci.
Voilà donc, pardon, la droite dans tous ses états, l'extrême droite aussi, puisque l'ERN voit donc une concurrente directe et ce parti, donc l'ERN, cherche à s'implanter. Il aura pour la première fois 2014 un candidat, Thierry Mariani.
Merci Nicolas Ballu. La renommée de Sévère, réputée incassable, n'aura pas suffi à lui conférer une solidité à toute épreuve. Hier, la cristallerie d'Arc a été placée en redressement judiciaire, faisant redouter des centaines de suppressions d'emplois. Le groupe fondé en 1825, fabricant historique de produits pour les arts de la table, fait face depuis des années déjà à des difficultés chroniques qui se sont encore aggravées avec la flambée des coûts de l'énergie, l'inflation, sans oublier la concurrence effrénée des produits importés d'Asie.
C'est le 6e distributeur alimentaire français en part de marché, mais le 2e annonceur, tout secteur et médias confondus.
Or, on l'a appris ce matin, Lidl va arrêter la publicité à la télévision traditionnelle dans l'Hexagone, ce qui constitue nécessairement une mauvaise nouvelle pour le petit écran tricolore. Alors, pourquoi le discounter allemand invoque une réglementation qu'il juge trop restrictive, en particulier face à la concurrence des plateformes internationales? Sébastien Baer, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Correspondant de France Culture à Berlin. C'est donc un annonceur extrêmement important, Sébastien, qui va disparaître de la télé française.
Oui, Thomas, parce que Lidl a consacré en France près de 400 millions d'euros pour ses campagnes de publicité entre janvier et septembre 2025. Et vous l'avez rappelé, cet investissement considérable fait du groupe le deuxième annonceur de l'Hexagone, derrière Leclerc, devant Intermarché. Parmi les slogans phares de l'enseigne, il y a le désormais célèbre « Allô patron, on est mal » ou encore « Le vrai prix des bonnes choses ». Des spots diffusés en grand nombre à la télévision pour vanter le rapport qualité-prix imbattable et la diversité des produits.
Les meilleures vitamines A, B, C, D et E au meilleur prix, ça, ça vaut le coup. Cette semaine, chez Lidl, banane seulement 98 centimes le kilo avec Lidl+. Courgette seulement 1,09€ le kilo avec Lidl+. Lidl, ça vaut le coup.
Mais le groupe a été épinglé l'été dernier pour des publicités jugées trompeuses et condamné à verser 43 millions d'euros à son concurrent Intermarché. Les spots en question, ils sont 374 au total, ont été diffusés entre 2017 et 2023. Ils mettaient en avant des promotions, des prix attractifs. Pour la justice, les produits concernés n'étaient pas disponibles en quantité suffisante pendant au moins 15 semaines dans tous les magasins, comme le prévoit un décret de 1992, d'où cette amende. Pour la direction de Lidl, les risques liés à la réglementation française sont trop grands. À la place des spots télé, le groupe investira à l'avenir dans des vidéos diffusées en ligne.
Merci Sébastien Baer, en direct de Berlin.
Midi passé de 41 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
En Iran, où le mouvement de contestation contre le pouvoir ne faiblit pas, l'ère post-Ramenei du nom du guide suprême a-t-elle commencé depuis 10 jours? La République islamique est secouée par une vague de protestations qui touche la quasi-totalité des 31 provinces du pays, et de par son ampleur comme sa diversité sociale, eh bien la question se pose en effet de savoir si cette contestation pourrait témoigner d'une forme, à tout le moins, d'épuisement du régime. Pour le savoir, invité de la rédaction à présent, Azadeh Kian, professeur émérite de sociologie à l'université Paris-Cité. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Peut-être pour commencer, pouvez-vous nous rappeler d'où est parti ce mouvement de contestation et ce qui le distingue des précédentes révoltes que le pays a connues au cours des dernières années?
Effectivement, ça a commencé il y a 11 jours et le caractère inédit de ce mouvement tient au fait que ça a commencé par les commerçants du bazar de Téhéran, qui sont conservateurs, qui étaient des piliers de ce régime et très proches du pouvoir clérical, qui ont commencé le mouvement du fait de la cherté de vie, la perte de pouvoir d'achat de la population, l'augmentation exponentielle du prix de devises. Donc, ils ont commencé le mouvement, ils ont manifesté dans la rue. Les étudiants des universités à Téhéran se sont joints à ce mouvement au début, et puis graduellement, ça s'est répandu à d'autres pays. Et jusqu'à hier, les régions kurdes étaient plus ou moins épargnées, mais ça y est, maintenant, plusieurs grandes villes des régions kurdes aussi se sont joints à ce mouvement, ce qui est très important. Donc, pour vous dire que l'ensemble du pays est aujourd'hui contestataire. Bon, tout le monde ne manifeste pas dans la rue non plus, mais le ras-le-bol est désormais général.
Ces commerçants que vous évoquiez, plutôt conservateurs, proches du pouvoir clérical, constituaient jusqu'ici le cœur d'une classe moyenne sur laquelle s'appuyait encore le pouvoir. Qu'est-ce qui a changé pour eux?
Écoutez, lorsque les prix des denrées alimentaires ou toutes sortes de produits augmentent du jour au lendemain, pour vous donner un exemple, la viande est très chère, donc les classes moyennes, même les classes moyennes ne peuvent plus l'acheter, donc tout le monde a commencé à consommer des œufs. Le prix des œufs a augmenté par 274%. Depuis l'année dernière. Donc, vous voyez bien que les gens n'ont plus les moyens d'acheter quoi que ce soit. Et donc, ça veut dire que les commerçants aussi ont commencé à s'appauvrir, effectivement. Et il n'y a absolument aucune solution envisageable du fait de ce mafia qui, les réseaux mafieux, je veux dire, qui gouvernent l'économie de ce pays. Et donc, ils continuent à régner à l'heure actuelle. Et donc, il n'y a pas de possibilité de sortir de cette situation économique désastreuse, raison pour laquelle même les commerçants sont aujourd'hui contre le pouvoir du guide et de ceux qui dirigent ce pays.
Voilà plusieurs années en réalité que le régime des Mollahs est souvent décrit comme moribond. Jusqu'à quel point ce nouveau mouvement de contestation le fragilise davantage encore qu'il ne l'était déjà ?
Écoutez, le régime est déjà très fragilisé du fait de la fragilisation de ses soutiens dans la région, à savoir le Hezbollah libanais, le Hamas palestinien, etc. D'un autre côté, c'est très, très contesté par sa propre population. Et donc, je pense qu'ils ne peuvent plus tenir pendant longtemps, dans la mesure où des pans entiers de la population, hormis les forces de coercition, sont aujourd'hui dans la rue ou sont parmi les contestataires des classes populaires dont les jeunes sont sans perspective et au chômage, aux classes moyennes qui s'appauvrissent, aux même les commerçants, classes moyennes traditionnelles. Donc, il n'y a qu'un petit pourcentage de la population qui continue à soutenir le régime et le guide du fait de leur intérêt économique ou financier ou voire même idéologique, mais ça reste vraiment une minorité infime. Maintenant, la grande question est de savoir comment est-ce que les forces de coercition, les gardiens de la révolution vont réagir. Est-ce qu'ils vont continuer à réprimer la population et les contestataires ou est-ce qu'à un moment, ils vont accepter, si vous voulez, la volonté populaire et arrêter de soutenir le régime et surtout le guide à sa tête?
Et pour l'instant, on rappellera que la répression s'accélère puisqu'elle a déjà fait au moins 36 morts et conduit à l'arrestation de plus de 1200 manifestants. Merci Azadeh Kian, professeur émérite, je le rappelle, donc de sociologie à l'Université Paris-Cité, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Aloïs Guérin pour la préparation. La force, toute la force, rien que la force. Hier, l'administration Trump aura tour à tour annoncé qu'elle entendait dicter jusqu'à nouvel ordre les décisions des autorités de Caracas, en gardant notamment le contrôle de la commercialisation du pétrole vénézuélien pour une durée indéterminée, mais aussi dit étudier activement un achat du Groenland, sans d'ailleurs exclure l'option militaire dans le but d'acquérir le territoire semi-autonome du Danemark, lequel répète qu'il n'est pas à vendre. Le milliardaire républicain a également lancé une nouvelle charge contre la diplomatie climatique en ordonnant le retrait de son pays de quelques 66 organisations, dont environ une moitié liée à l'ONU. Et puis toujours dans la même journée d'hier, les États-Unis ont arraisonné deux pétroliers, dont l'un battant pavillon russe, une première dans l'histoire récente qui fait craindre désormais une escalade diplomatique et militaire entre Washington et Moscou. Enfin, faut-il y voir là aussi une illustration de plus de ce qu'avec la manifestation permanente du rapport de force, la peur a vite fait de s'installer. Hier, une femme de 37 ans, mère de famille, a été abattue au volant de sa voiture, à bout portant, par un agent de la police de l'immigration américaine à Minneapolis. Isabelle Labéry, bonjour.
Bonjour.
Alors le secrétariat à la sécurité intérieure a aussitôt évoqué un acte de légitime défense pour justifier donc le tir du policier, une version vivement contestée par les responsables politiques locaux qui se basent sur de nombreuses vidéos des faits. Seule certitude, à plusieurs reprises déjà ces derniers mois, Isabelle, des personnes sont mortes, souvent d'ailleurs accidentellement, en tentant d'échapper au contrôle de la police de l'immigration.
Oui, au moins 3 personnes sont déjà mortes de manière accidentelle en essayant d'échapper au contrôle de ces agents surarmés et cagoulés. Un travailleur agricole tombé d'un toit en Californie alors que des hélicoptères et des blindés encerclaient son exploitation. 2 hommes percutés, eux, par des voitures après s'être enfuis en courant. Mais surtout, une fois déjà, un homme a été victime des tirs de la police de l'immigration, un Mexicain sans antécédent judiciaire qui vivait depuis 20 ans à Chicago, pris dans un contrôle routier le 12 septembre et tué à bout portant dans son véhicule. Comme aujourd'hui à Minneapolis, le département de la sécurité intérieure a alors soutenu la thèse de la légitime défense, pourtant contestée par de nombreux témoins. L'agent qui a tiré n'a pas été poursuivi, même son nom n'a pas été rendu public. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, cette agence de l'immigration qui s'est transformée en redoutable machine à expulser dispose aussi de moyens financiers considérables. 70 millions de dollars consacrés à l'achat d'armes à feu, de munitions et de gilets pare-balles, c'est 700% de plus que sous l'administration Biden. Des armes qui se retrouvent parfois entre les mains d'agents à peine formés, des agents pour qui un migrant en situation irrégulière est un criminel, traité comme tel d'ailleurs dans les centres de détention où les décès là aussi s'accumulent, souvent consécutifs à une mauvaise prise en charge médicale. En 2025, plus de 30 migrants n'ont pas survécu à leur séjour en prison. Selon les statistiques de l'institution, c'est un record absolu depuis 20 ans.
Merci Isabelle Labéry. Depuis le début de sa guerre d'invasion, l'armée du Kremlin pilonne sans relâche les infrastructures énergétiques ukrainiennes avec drones et missiles. C'était encore le cas la nuit dernière, au point que ce matin, plus d'un million de foyers dans le centre du pays se retrouvent privés non seulement d'eau, mais aussi d'électricité et donc de chauffage par des températures glaciales. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par l'arrivée de la tempête Goretti. 27 départements total, essentiellement sur la façade ouest, ont été placés en vigilance orange, neige et verglas. Et même rouge pour la Manche. Seul le pourtour méditerranéen devrait bénéficier de belles éclaircies. Quant aux températures, elles seront comprises entre 4 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.